l'expérience de vivre des événements hors du commun. À ses yeux, tous les doutes sont levés sur la réalité de cette relation avec Fernand, mais elle est soucieuse de ne pas être prise pour quelqu'un de farfelu et n'a accepté de m'en parler que parce qu'elle connaît mon travail sur le sujet. Avant que ça m'arrive, je n'y croyais pas. Vous n'aviez pas entendu parler de ces phénomènes auparavant? J'étais comme tout le monde. J'ai dû voir des émissions à la télé, mais j'étais sceptique. Je n'y croyais pas. Et maintenant? Je l'ai vécu et je continue de le vivre. Pas au quotidien, mais souvent. Et je peux vous dire que je ne rêve pas. Je ne divague pas. Je peux vous jurer sur la tête de mes enfants ce que j'ai de plus cher, que tout ce que je vous ai dit est vrai. Je sais qu'il est toujours à côté de moi. Vous continuez à avoir beaucoup de contacts avec lui? J'ai le sentiment que c'est peut-être plus éphémère aujourd'hui. Je le ressens de temps en temps, mais un peu moins. C'est plus espacé. Il doit être fatigué, avoir moins d'énergie. Je lui dis de venir se recharger sur moi. Il a dû déployer tellement d'énergie pour m'apparaître qu'il ne doit plus en avoir assez. Énergie. Encore. Et soudain, alors que je la questionne sur les enseignements qu'elle retire de ses expériences, notre entretien prend une tournure inattendue. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de la mort. Je viens de fêter mes 70 ans. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire sur Terre. J'ai bien élevé mes enfants. Je leur ai donné une bonne éducation, ils sont heureux et n'ont plus besoin de moi. Je veux maintenant connaître un peu de bonheur, et ce bonheur est auprès de lui. Je veux partir auprès de lui. Il m'attend. Je sais qu'il m'attend. Le ton d'Anne-Marie a changé. Quelque chose d'imperceptible m'alerte. Oui, il vous attend, Anne-Marie. Mais peut-être une fois que vous aurez fait ce que vous avez à faire ici. Je ne vois personne. J'ai une amie dans un village un peu plus loin, mais on se voit peu. Ma vie n'a plus trop de sens. Je n'ai plus envie de rien. J'aurais même tendance à me laisser aller. Alors, je me dis qu'il faut que je me ressaisisse, que je sois bien pour lui. Je vis avec Fernand au quotidien. Tout ce que je fais maintenant, ce n'est que pour lui. Soudain, toute mon attention est en éveil, en alerte. Je ne sais que dire. Je suis brusquement saisi par l'écho de ce questionnement, si souvent rencontré dans ma propre vie. Quel intérêt? À quoi bon souffrir? À quoi tout cela rime-t-il? Ce monde absurde, fou, injuste. Mais à chaque fois que le désespoir a menacé de m'engloutir, une petite flamme a toujours maintenu suffisamment de lumière pour que je sente au plus profond de moi que les épreuves de la vie sont des espaces d'enseignement et que j'avais la force d'y faire face. C'est bien beau, me direz-vous, surtout quand on traverse des difficultés dans la solitude et que la force nous manque. Mais je sais cela. Notre existence a un sens. L'adversité est une école, sans doute même une école dont nous avons nous-mêmes choisi le programme avant de venir. Mais comment dire cela aujourd'hui à Anne-Marie? Comment trouver les mots adaptés? Je ne suis plus en train de réaliser une simple interview. Me voilà plongé dans la détresse d'une vie où les regrets aveuglent, où l'amour nourrit de la confusion et désarme la raison face à cette question existentielle si importante. Si nos morts nous attendent et que l'au-delà est beau, à quoi bon retarder nos retrouvailles? Car rejoindre Fernand, et vite, c'est bien ce à quoi ne cesse de penser Anne-Marie. Toutes ces expériences, en définitive, ne font qu'accroître son désir de le retrouver, de vivre enfin ce grand amour qui s'est transformé en un gigantesque regret. Ce désir obscur, elle s'en ouvre finalement. J'y pense, je ne vous le cache pas. Parfois, je prends un médicament de plus pour pouvoir dormir, oublier. mais quand je me réveille, tout revient. Alors j'y pense. Chaque jour, je lutte pour ne pas le faire. Et puis je pense à mes enfants et à mes petits-enfants. Je pense à eux très fort. Et c'est ce qui me retient. Je suis croyante aussi. Et l'Église condamne le suicide. Mais j'en ai marre.
Je comprends.
J'ai envie de le retrouver. Ça fait quand même 50 ans qu'on est séparés.
Pardonnez-moi, mais je pense que si vous mettez fin à vos jours, vous n'allez justement pas le retrouver. Ce n'est pas une question de punition, de jugement. J'ai parlé de cela avec des médiums, et tous disent que les gens qui mettent fin à leurs jours ne sont pas condamnés en arrivant dans l'au-delà, mais regrettent leurs gestes et s'aperçoivent que la mort ne permet pas de fuir ce que l'on a juste esquivé. On perd juste du temps. On pense accéder plus facilement et plus rapidement à la lumière, alors qu'en réalité, on ne fait que reculer ce moment. Vous êtes pressé de retrouver Fernand parce que vous avez le sentiment de ne pas avoir vécu votre amour. Mais si vous mettez fin à vos jours, ça risque de retarder vos retrouvailles avec lui. La question est peut-être de comprendre ce qui vous a tenu éloigné l'un de l'autre toute votre vie. Si votre amour est si évident aujourd'hui, que s'est-il passé durant ces 50 années qui vous a empêché de vous retrouver? Comment l'amour peut-il nourrir en vous ce désir de mourir? C'est qu'il m'a parlé, il m'a pris la main, il est entré dans mon corps. Ce que vous êtes en train de vivre est important. Il y a quelque chose à apprendre de ce que vous traversez, quelque chose à comprendre. Si vous mettez fin à vos jours volontairement, vous n'allez pas éclaircir cette question et allez peut-être au cœur de l'épanouissement de votre relation avec Fernand. Le bonheur n'est pas un état que l'on fige pour l'éternité. Il augmente avec la clarté que l'on projette sur son existence, sur les motivations profondes et inconscientes qui nous font agir. Et comprendre l'essence de votre relation avec Fernand passe sans doute par l'étape étrange de votre séparation actuelle. Renoncez à cette phase importante de votre vie à tous les deux pour avoir l'illusion de vous retrouver plus vite, va paradoxalement augmenter la distance entre vous, et vous n'aurez plus accès l'un à l'autre.
Oui, je comprends ce que vous voulez dire.
Ça vous éloignerait de lui temporairement, ce serait dommage. Vous vivez quand même aujourd'hui quelque chose de fort. La vie vous a séparé longtemps. Ne laissez pas la mort vous séparer encore plus longtemps.
C'est difficile, vous savez.
Oui, la vie nous fait traverser parfois des épreuves difficiles. Mais j'ai la certitude que ce n'est pas pour rien. Je pense que les difficultés que l'on rencontre dans notre existence ont un sens. Elles nous permettent de devenir des gens meilleurs. Et l'on est avec les outils pour y faire face.
Mais j'ai l'impression qu'il a besoin de moi. C'est pour ça que je veux partir. Voilà 4 ans que je sais qu'il est mort, et à chaque fois qu'il vient me voir, je me dis que c'est parce qu'il a besoin de moi. Il faut que j'y aille.
Pourquoi pensez-vous qu'il a besoin de vous?
Il ne peut pas rester tout seul. Il a besoin de ma présence. Je ne veux pas qu'il s'en aille sans moi.
Ne croyez-vous pas que vous sentir indispensable est une façon d'entretenir artificiellement le souvenir de votre amour passé?
Vous savez, vous pouvez davantage l'aider en étant ici qu'en allant le rejoindre, parce que aujourd'hui, il sait où vous trouvez.
Et puis, cette dépendance que vous pensez qu'il éprouve à votre égard, peut-être est-ce à vous de l'aider à comprendre quelque chose.
Quoi?
Peut-être a-t-il besoin que vous lui expliquiez ce qui s'est passé. Par exemple, qu'il est décédé et que votre relation doit évoluer.
Vous n'êtes plus deux jeunes gens comme autrefois. Jouer à tenter de retrouver cela est illusoire et risque, en définitive, de n'entretenir que de la souffrance pour vous deux, la souffrance du manque physique, de l'absence.
comme si vous figiez tous les deux la même image, comme si vous figiez votre vie. Pardonnez-moi d'être un peu brutal, mais n'avez-vous pas le sentiment de vous accrocher tous deux à vos regrets ?
Je ne sais pas. Je m'interroge tous les jours.
Expliquez-lui. Dites-lui qu'il est décédé.
Ça me fait mal d'entendre ça.
Ne pensez-vous pas qu'il est important que cela soit dit ?
Ça me fait mal.
Anne-Marie est prise par l'émotion. Je comprends que ça vous fasse mal, mais c'est la réalité. Il est décédé. Votre relation est appelée à évoluer. Ça peut vous aider tous les deux que vous l'exprimiez. Ça va renforcer votre lien au lieu de vous séparer. Est-ce que vous vous faites aider ?
Aider ?
Par un psychothérapeute. Vous êtes en deuil. C'est une blessure, sauf qu'elle n'est pas visible. C'est une blessure psychique qu'il est important de commencer à soigner. Et il est parfois nécessaire de se faire accompagner dans cette démarche.
Oui, mais j'ai tellement peur qu'il s'en aille sans moi.
Le lien que vous avez avec Fernand est inaltérable. Prendre soin de vous ne le fera pas disparaître, au contraire. Et Fernand en sera apaisé également. La vie, c'est le mouvement, l'évolution. Votre tristesse le contamine et votre joie l'éclaire. Vous avez encore plein de choses à apprendre ici. Lui aussi est appelé à poursuivre son évolution. Votre amour n'est pas un petit trésor à enfermer dans une boîte. Ne craignez pas de le libérer. Je sens votre confusion et vos regrets. Votre amour ne doit pas rester figé dans le passé. Acceptez que Fernand soit dans un autre monde désormais et que votre relation ne ressemble plus à ce que vous auriez aimé vivre avec lui. Votre amour n'en sera que plus intense.
Oui,
j'en suis convaincu.
J'espère tellement. Mais déjà, je n'ai plus peur de la mort. J'ai l'impression qu'une belle vie nous attend après la mort.
Oui, une belle vie nous attend après la mort si notre vie a été belle et qu'on la quitte le moment venu sans amertume ni regret. Et parfois, je le redis, il est difficile de franchir seul certaines épreuves. Alors il faut demander de l'aide. J'ai fait une psychothérapie après la mort de mon frère, et cela m'a permis de gagner en apaisement. En étant aujourd'hui beaucoup plus en paix, je peux vous assurer que je sens plus facilement la présence de mon frère qui, lui, j'en suis certain, a aussi poursuivi sa vie et son évolution de l'autre côté.
Oui.
Je suis aujourd'hui convaincu, Anne-Marie, qu'il y a une vie après la mort. Je suis également convaincu que les épreuves et les difficultés dont nous faisons l'expérience durant notre existence ont un sens. Jusqu'au bout, accepter l'épreuve permet de devenir quelqu'un de meilleur, de plus lucide. Vous avez aujourd'hui, Fernand et vous, l'occasion de comprendre quelque chose de fondamental à propos de votre relation. Votre amour est intact. Et aujourd'hui, votre rôle est peut-être d'aider Fernand. Lui le fera en retour pour vous. La force et la puissance de votre amour m'impressionnent vraiment. Ce lien ne sera pas rompu parce que vous accepterez de prendre soin de vous, de vivre votre vie et lui la sienne. Cela permettra au contraire que le moment venu, vous vous retrouviez dans toute l'intensité de votre union. Fernand ne disparaîtra pas. En lui offrant votre bien-être, vous lui offrez la liberté de se reconstruire et vous serez encore plus proche de lui. Il doit actuellement appréhender l'idée de s'éloigner de vous pour suivre son évolution ou même ignorer comment le faire. Parlez-lui. Dites-lui que vous l'aimez et laissez-le faire un bout de chemin seul. Qu'il explore l'endroit où il se trouve et fasse quelques repérages pour vous deux quand vous le retrouverez, après avoir vraiment fini votre mission ici. Le témoignage d'Anne-Marie m'a frappé. Il m'a alerté surtout sur l'importance de bien comprendre les mécanismes psychologiques de la vie et de la mort. Notre vie a un sens, notre mort aussi. Voir le sens de son existence demande de prendre soin de soi, de travailler à se libérer des regrets et de toutes ces émotions qui nous figent dans la mélancolie. Comment travailler sur ces émotions qui nous submergent? En comprenant quelles sont les manifestations de nos blessures et en acceptant de les soigner. La vie est mouvement, espérance. Le découragement prospère sur l'ignorance de nos peines.
Chapitre 18. Suicide. Pourquoi veut-on mettre fin à ces jours? Espoir d'un autre monde plus calme, lumineux et doux? Apaisement d'une souffrance devenue insupportable? Tristesse? Mélancolie envoûtante? Même si notre existence et notre mort ont un sens, même si notre âme a délibérément choisi une mission de vie, le découragement devant l'ampleur de la tâche peut parfois nous gagner. Épuisement. Absurdité de l'existence quand sa logique est devenue illisible, quand l'espérance n'est plus suffisante. Qu'implique la décision de renoncer? Sylvie, peut-on aborder la question du suicide? Certainement. C'est un sujet qui me tient à cœur. Il y a encore tant de souffrances engendrées par la mauvaise compréhension du suicide et de la mort. D'après les recherches que j'ai faites et les communications que j'ai eues avec les défunts, le suicide diffère des autres formes de mort, car ce n'est pas l'âme qui l'a appelé, mais ce que j'appelle la personnalité. La décision de quitter la terre provient de cette dimension de notre être que l'on peut appeler l'ego. C'est lui qui souhaite mourir à cause d'une trop grande souffrance, d'un aveuglement, d'une croyance, d'un état d'inconscience, d'une fuite ou encore d'un refus d'avancer. Mais intrinsèquement, l'âme, elle, n'a pas de pulsion de mort, car elle voit les choses d'un autre point de vue. Pour elle, la mort n'existe pas puisque l'âme est immortelle. En somme, le désir de mourir est voulu par l'ego. C'est la personnalité qui souhaite en finir avec la vie sur terre, parce qu'elle s'est éloignée de ce qui l'anime et qu'elle est envahie par le découragement.
Mais l'on est parfois submergé par la souffrance. On peut ne plus avoir la force de continuer. En quoi est-ce différent que l'ego désire la mort plutôt que l'âme?
Les choix qui s'opèrent dans la dimension de l'ego sont liés aux émotions et aux désirs personnels.
Et alors?
Je te l'ai dit, l'âme voit les choses d'un autre point de vue, à un niveau de conscience plus vaste qui fait qu'elle n'éprouve pas de pulsion de mort. La souffrance est souvent provoquée par une vision incomplète de la réalité. Je ne dis pas que c'est facile. Mais l'âme n'a de cesse d'essayer d'éclairer la personnalité sur le sens profond des expériences douloureuses auxquelles la vie nous confronte, pour que l'on cesse de les subir.
Qu'est-ce que la mort par suicide implique après?
Dans le suicide, les étapes de préparation à la mort sont absentes. Comme c'est la personnalité qui souhaite ce départ, tout le processus énergétique qui soutient le passage dans l'autre monde, lorsque l'âme l'estime juste, ne s'enclenche pas. La transition ne se vit donc pas de la même manière, puisque la conscience est projetée brutalement en dehors du corps physique, sans aucune préparation. Il ne faut pas voir une quelconque punition en lien avec ce choix, mais une conséquence naturelle due au fait que la mort n'a pas été préparée.
Le suicide mettrait donc fin au plan d'incarnation avant qu'il soit achevé. À cause de cette interruption non préparée, certains éléments essentiels pour la suite du parcours ne seraient pas acquis. Est-ce grave?
Non. Rien n'est vu en termes de gravité du point de vue de la conscience, insiste Sylvie. Tout est expérimentation. Le suicidé aura besoin de davantage de temps pour se détacher des modes de fonctionnement psychologique liés à son existence terrestre. Étant donné qu'il n'a pas bénéficié de ce temps de reconnexion progressive avec sa nature spirituelle, il lui faut se défaire progressivement de ses attachements, de ses désirs, de ses pulsions émotionnelles et des croyances qui le retiennent dans la matière. Et comme ce processus s'amorce sans avoir été préparé,
il peut s'opérer sur une durée plus importante.
Comme pour toutes les morts, les êtres partis par suicide ont besoin d'amour, d'écoute, de pardon et de paix. Nous pouvons les aider par notre présence de cœur, notre accueil et notre compassion. Ce sont, d'après Sylvie, les outils les plus puissants dont nous disposons.
Chapitre 19. Rendez-vous à New York.
Mon père est mort il y a 25 jours. Je ne réalise pas vraiment encore. Et pourtant, je l'ai accompagné au seuil. J'ai vu la vie abandonner son corps subitement, le temps d'un battement de cils. La peau qui perd son éclat et qui se fige. La mort d'un père, même attendu, est totalement cataclysmique. Après la mort, les funérailles. Le temps reprend. Début juillet, je pars avec ma fille pour un voyage prévu de longue date, notre premier tous les deux à l'étranger. Loin. New York. Soleil. Dès le matin, la chaleur humide envahit les rues. Notre hôtel se trouve sur la 79e rue, à deux blocs à l'ouest de Central Park. Ma fille va fêter ses 16 ans dans 2 mois. Elle me comble de fierté d'être si à l'aise en anglais depuis notre arrivée 3 jours plus tôt. Être père, moi qui viens de perdre le mien. Chaque minute avec ma fille est source de bonheur et conforte la vision que j'ai de ce rôle. Guider plutôt que commander. Accompagner, écouter, faire confiance, toujours, sans jamais faillir. Éveiller la force. Encourager l'autonomie, l'esprit d'indépendance. Apprendre. Transmettre les valeurs essentielles, respect et espérance. Le rire de Luna. Ses yeux qui s'émerveillent. Après un petit déjeuner copieux englouti dans un snack sur Broadway, nous avons prévu ce matin de visiter le Metropolitan Museum qui se trouve de l'autre côté de Central Park. Repu, Luna et moi prenons la direction de l'est, traversons une dernière avenue embouteillée et pénétrons dans le parc, soulagé de glisser sous l'ombre des grands arbres. Le vrombissement de la ville s'atténue jusqu'à disparaître presque totalement, tandis que l'on marche, ralenti par les écureuils gris qui furettent en tous sens, la queue électrique. Nous prenons tout notre temps pour traverser le parc dans sa largeur. Fraîcheur de la terre qui respire. Le bruit de la circulation reparaît et enfle. Nous voici de l'autre côté, Upper East Side. Le Metropolitan Museum est gigantesque. Que choisir? Sculpture, peinture, antiquité? Nous allons laisser l'inspiration nous guider. Quel ravissement, quelle beauté que l'histoire de notre monde! Nos déambulations nous font bientôt pénétrer dans les galeries dédiées aux impressionnistes et autres peintres du XIXe siècle. Une première salle. Et soudain, je suis ébranlé. Devant moi, un tableau de Vlaminck intitulé « La Seine à Chatou ». Teinte vive, chaude, le bleu de l'eau est lumineux, le vert de 2 arbres au fond vibrant. Juste à gauche du Vlaminck, une nature morte de Matisse, dans les mêmes tons plutôt pastel et ardent. Un peu plus loin, un tout petit tableau, le portrait d'André Derain, un Vlaminck à nouveau aux couleurs audacieuses. Je me sens fébrile, embarrassé par cette agitation intérieure qui m'envahit brusquement alors que je visite un musée en compagnie de ma fille. Luna a-t-elle remarqué la gaucherie soudaine de mes mouvements? Nous avançons vers la galerie suivante. Mon émoi perdure. Encore une autre salle, et voilà que, galerie après galerie, mon émotion ne cesse de croître. Elle me submerge le corps, prend possession de moi. Je baisse la tête. Une boule dans le ventre gonfle et comprime mes poumons. Les larmes menacent en permanence, en même temps que je cherche mon air. « Ça ne va pas ?» Luna a remarqué mon drôle d'état. Elle me regarde inquiète. « Si, si, mais je suis très ému par ces tableaux. » Elle doit trouver ma réaction un peu exagérée. Jamais elle ne m'a vu comme ça. Mais que lui dire ? Moi-même, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ma fille a néanmoins la délicatesse de ne pas m'interroger davantage, et tandis que nous avançons tous les deux,
jaillissent devant nos yeux sans cesse de nouveaux tableaux et mon cœur vacille. Toutes ces œuvres, ce trésor inestimable, tellement de toiles historiques, ces peintres illustres autour de nous. Je suis touché, bousculé. Chaque galerie réserve de nouvelles stupeurs. D'innombrables toiles si connues à chaque seconde, où que portent nos regards, Renoir, Manet, Monet, Degas, Cézanne. Je suis confus que Luna soit témoin de mon hébétude. Elle aussi est mal à l'aise. Je suis sensible et amateur de peinture, mais là, que se passe-t-il? Ça dépasse l'entendement. Van Gogh, champ de blé avec cyprès. Je ne parviens plus à retenir mes larmes devant ce tableau qui aveugle tous les autres autour de lui. Une lame de fond surgit de mon ventre, remonte le long de mon corps, s'engouffre dans ma gorge et jaillit de mes yeux. Je m'approche. Je vois la matière généreuse de la peinture posée sur la toile. La trace des gestes du peintre. Les traînées épaisses laissées par sa main dans un mouvement décidé, un peu fou même. L'énergie de